Bonjour.
Macaron.
Petit gâteau.
Croissant.
Toilette.
Chat.
Rouge.
Maillot.
Buffet.
Bonnet.
Soutien.
Lingerie.
Maquillage.
Abat-jour.
Maton.
Casse-colle.
Pan français podcast. Décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Excusez-moi le retard avec cet épisode, c'est moi. Mais voilà, c'est la vie. Elle entraîne de retard, c'est normal. Pas d'excuses. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très, très, très bien accompagné. Et comment ça va, Elemo?
Ça va bien. Comment ça va, toi, Adrien?
Voilà, super bien. Mieux maintenant.
Excellent.
Bon, Elemo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
J'accompagne ton travail sur les réseaux, ça fait quelques temps. Et j'aime beaucoup. Je suis même un peu nerveux aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème. On est entre nous. Ça va aller.
Voilà. Et bon, normalement, on commence avec une toute première question qu'on pose à tout le monde. Elemo, qui es-tu à la queue de la boulangerie?
Qui es-tu? Comment?
Qui es-tu à la queue de la boulangerie? C'est-à-dire...
Moi, je suis né à Montréal, donc artiste dans l'âme, parce que très jeune, j'aimais beaucoup dessiner. Et j'ai aussi grandi entouré d'une famille d'artistes, donc mon père est acteur, j'ai mon frère aussi qui est comédien, donc c'est sûr que ça m'a beaucoup nourri quand j'étais jeune. J'ai deux autres frères qui sont dans le domaine artistique, donc j'ai vraiment baigné dans l'art, tout ce qui est artistique depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai grandi avec cette passion, cette envie de découvrir les arts. Et puis, par la suite, j'ai fait quelques études en dessin animé, en fait. J'ai étudié là-dedans, j'aimais beaucoup le dessin. Je voulais découvrir comment on bouge des personnages, comment dessiner, comment améliorer tout ça. Puis, par la suite... lorsque je travaillais dans le domaine de l'animation, c'est là que j'ai découvert le slam. C'était une collègue qui m'avait conseillé d'écouter du slam parce que j'écoutais beaucoup de rap français. Et puis j'aimais beaucoup les mots, cette façon de jouer avec les mots. Puis dans le slam, c'est ça, c'est aussi le plaisir de jouer avec les mots. Donc, quand j'ai écouté du slam, je suis vraiment tombé en amour parce que justement, c'était vraiment axé que sur les mots. Plus que la musique, en fait, le slam, c'est ça, c'est vraiment que les mots, on partage un texte, on tente de transmettre des émotions, donc moi, c'est vraiment venu me chercher, donc j'ai commencé à écrire des textes, et puis je suis, comment dire, devenu slameur par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai participé à des concours, au fil des années, ben, j'ai écrit plusieurs textes, et j'ai commencé à avoir des contrats, là, au niveau du slam, des ateliers, des écoles, et puis, tranquillement, c'est devenu un métier. Donc voilà, c'est comme ça que je me définis, un artiste qui adore les arts et qui pour l'instant fait surtout du slam. On peut dire ça comme ça.
Ah, c'est super. Je ne savais pas ces trucs-là de l'animation. Hein.
Ouais.
Ah, super. Et à propos de la question, c'est parce qu'ici, le podcast s'appelle Pan Français. C'est le pan en portugais, c'est pain, hein, du pain.
Ouais.
En portugais. Et c'est un pain qui... Ici au Brésil, on appelle français, mais qui n'est pas français, les Brésiliens. Donc, c'est un peu l'idée du podcast. Et
okay.
Au Brésil, normalement, on dit « Qui suis-je à la queue de la boulangerie ?» Ça veut dire « Qui suis-je au milieu de tout le monde hein? Je suis n'importe qui. » Donc, c'est un peu de là d'où vient cette première question.
Ok, parfait.
Mais bon, tu t'es défini comme slameur. Mais explique-moi, comme si j'avais 5 ans, c'est quoi le islam?
C'est quoi le slam? Bon, ben, le slam, c'est d'abord une forme de poésie, un peu plus actuelle. Donc, on écrit d'abord un poème, et ensuite, on les dit devant le public. On le présente, on le déclame. Donc, le slam, c'est quoi? C'est une performance. Donc, le fait de dire un texte, un poème devant un public. Mais l'objectif dans le slam, ça va être de réussir à captiver le public. Donc, c'est pas juste lire un poème, juste pour lire un poème. Faut trouver des moyens pour que ça soit intéressant, captivant. Donc, au-delà de la lecture du texte, c'est aussi la performance, l'interprétation. comment bien présenter un texte pour que le public soit intéressé, pour que le public soit porté à écouter. Pour moi, c'est ça le slam. Et en général, le slam, on n'ajoute pas de musique. C'est-à-dire que dans les concours de slam, parce que ça existe les concours de slam, il n'y a pas de musique. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment écouter les mots, les paroles, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. En général, dans les concours de slam, il n'y a pas de musique. C'est vraiment axé sur la performance, sur les mots. Et on tente de voilà, captiver le public avec, avec les émotions, avec notre texte, avec l'interprétation.
Voilà, et ici au Brésil, dans les concours des slams que j'ai déjà participé en tant que public, il y a une voix assez politique normalement. Je ne sais pas, est-ce que ça se passe aussi au Québec? Tu es québécois, hein, je pense, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, je suis québécois.
Il a cette prise générale de l'islam. Normalement, il doit prendre cette voie politique, c'est-à-dire montrer les... parler des choses politiques ou non, pour parler de n'importe quoi.
Est-ce que c'est nécessaire? Non. Après, moi, je trouve que les soirées de slam, c'est très varié au niveau des thèmes que l'on propose. Et moi, je trouve que c'est une richesse là d'assister à une soirée et de découvrir les différents styles, les différents thèmes qu'on peut aborder. Peut-être qu'à une certaine époque, oui, c'était un peu plus axé sur la politique il y a quelques années, mais je trouve que c'est ça au fil des années, là, vraiment, ça s'est diversifié, puis de plus en plus, on découvre des textes de tout genre, là, mais vraiment tous les genres, que ça soit plus dans l'humour, que ça soit plus personnel, que ce soit plus engagé aussi. Donc, la plupart du temps, ça va être engagé, c'est-à-dire qu'on va vouloir transmettre peut-être un message par rapport à ce que l'on vit en tant que, ou du moins en tant que société. Donc, je trouve que il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et pour moi, mais c'est ça. Pour la plupart des slams que j'ai entendus, c'est très axé sur le message qu'on souhaite transmettre, une opinion qu'on a par rapport à un événement, par rapport à l'actualité aussi, pas nécessairement politique, mais qui rejoint l'actualité très souvent.
Et quelle est la différence d'un concours là, des slams pour un concours de poésie ou on peut dire récital, je ne sais pas, on peut dire comme ça en français.
Mais les concours de poésie, je suis curieux de savoir c'est comment un concours de poésie?
Non, je dis un moment où les gens vont juste réciter des poèmes, pas vraiment un concours, mais il y a une différence entre l'islam et une poésie quelconque.
Okay. Donc c'est ça, donc une différence entre une soirée slam et une soirée de poésie.
Voilà.
Donc les soirées slam, c'est plus considéré comme des concours de slam. C'est-à-dire que en général, comment ça se déroule, c'est qu'il y a cinq personnes au hasard dans la foule qui vont être juges. Et à partir de là, ils vont noter les performances des slameurs, ils vont mettre une note sur 10. En général, il y a une dizaine de slameurs et de slameuses qui montent sur la scène, à la suite de l'autre, et ils sont toujours notés. Et il y a des règles à respecter aussi dans le slam. Donc en général, j'en ai parlé, pas de musique, ça fait partie des règles. La deuxième règle, c'est qu'on peut pas dépasser 3 minutes de performance. Donc on peut pas parler plus de 3 minutes lorsqu'on fait un slam, parce que l'idée des soirées slam, c'est qu'on veut pas que le public s'ennuie. On veut que ça reste captivant, on veut garder l'attention du public. Donc c'est pour ça qu'on limite ça à 3 minutes lorsqu'on dit notre texte. Si on dépasse le 3 minutes, on peut perdre des points. Donc, je parlais des points, hein, donc les noter. Donc il faut faire très attention à pas dépasser 3 minutes. Et on n'a pas le droit d'avoir des accessoires non plus, ni de porter un costume en lien avec notre texte pour que ça soit plus intéressant ou pour gagner des points. Donc ça, c'est interdit parce que le défi dans le slam, c'est réussir évidemment à captiver le public, mais seulement avec le texte, la voix et le corps. Donc c'est vraiment un travail d'interprétation. Donc réussir à capter l'attention avec finalement juste nous, qui on est, nous. Donc c'est un peu ça le défi. Donc en respectant ces règles, ça fait en sorte que l'artiste va être plus porté à travailler son texte pour trouver des moyens, des stratégies pour captiver le public, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc en général, les gens qui assistent à des soirées passent de très belles soirées parce qu'on a des artistes qui montent sur scène, tente de capter l'attention, de trouver des moyens pour que ça soit vraiment puissant, fort comme texte. Donc, pour moi, c'est ça la différence entre les soirées slam et les soirées de poésie. Les soirées de poésie, c'est plus, pour moi, des partages de textes sans l'intention de capter l'attention. C'est juste l'intention de partager un texte, un merveilleux poème qu'ils ont écrit, mais sans... C'est ça, après, c'est ça. Il y a quelque chose en plus dans le slam, c'est-à-dire que il va avoir le côté performant.
Oui, on ne peut pas que monter sur la scène, lire un livre et descendre. Ce n'est pas exactement ça et quitter. Oui, il faut...
Non, c'est ça. Le slam, ce n'est pas ça du tout. Il y a le côté performance, interprétation. Il faut le travailler, ça. Il faut vraiment pratiquer, répéter à plusieurs reprises. Et je le dis souvent, là, très souvent, on pense que le slam, c'est que l'écriture, mais c'est aussi la performance. Comment arriver à faire en sorte que le public t'écoute?
Oui, non, parfait. Mais quand est-ce que l'islam est apparu dans ta vie? T'as dit que tu faisais de l'animation et du coup, l'islam est apparu. Mais comment ça s'est passé? Tu faisais une animation à propos de cela ou quoi?
Non, en fait, mais comme j'ai dit, je travaillais, c'est vrai que c'était en plein milieu de travail, c'est-à-dire que c'était à l'époque où j'adorais beaucoup le rap, j'écoutais beaucoup de rap français, donc j'étais très inspiré par les mots, mais je n'écrivais pas de rap. Donc, je n'étais pas porté à plonger dans le rap ou d'essayer. Peut-être que j'avais essayé d'écrire un petit peu, mais c'est jamais allé très loin. Après, puisqu'une collègue avait vu que j'écoutais beaucoup de rap, elle m'a dit, ah, ben, peut-être que le slam t'aimerait ça. Donc, moi, je ne savais pas c'était quoi du slam. Donc, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas, je vais écouter. Donc, j'ai écouté des performances sur Internet. J'ai écouté des albums aussi de slam. Donc, il y avait des slameurs qui déjà sortaient des albums. Et ça, là, moi, j'avais à peu près 20 ans. Donc, ça arrivait beaucoup plus tard dans ma vie, là, dans le sens que, à l'adolescence, là, je n'écrivais pas du tout, ni enfant. C'était vraiment que le dessin. J'étais vraiment axé sur le dessin. Donc, à l'âge de 20 ans, je te dirais, c'est là que j'ai découvert le slam. Donc, évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé dans le slam, c'est, un peu comme j'ai dit, c'est vraiment axé sur les mots. Donc, plus que le rap, le rap, il y a un côté musical, là aussi, il y a la musique qui est de l'avant. Donc, il y a la musique et les paroles. Et le slam, c'est que les paroles. Donc, des fois, il y a une musique, mais c'est une musique ambiante juste pour appuyer ce qui est dit. Donc, on a le plaisir de savourer les mots, d'écouter ces paroles-là. Puis moi, c'est ce que j'aimais. Puis en plus, il y avait un côté très, très, très rythmé qui venait me chercher parce que, bon, avec le rap aussi, c'est très rythmé. Donc, c'est tout ça que j'aimais dans le slam. C'est pour ça que je me suis plus lancé dans l'écriture du slam plus que dans l'écriture du rap. Parce que justement, c'est les mots, le plaisir de jouer avec les mots, les rimes, les jeux de sonorité. Donc, c'est tout ça qui est venu me chercher. Puis, c'est pour ça que j'ai commencé là.
C'est cool.
Ouais.
Mais c'est cool, cette chose de... Bon, t'es pas né comme ça, hein, t'as appris à...
Oui,
tout
j'ai
un
appris.
Processus. Hein.
Oui, c'est ça exactement. Puis je m'y attendais pas, hein, dans le sens que je pensais pas que j'allais devenir un poète slameur quand j'étais petit. Moi, mon rêve, c'était devenir un grand dessinateur. Donc, je me souviens, mon premier petit rêve d'enfant, là, c'était de devenir dessinateur. Donc, c'est sûr que oui, je pense que l'écriture, ça, on peut le développer, ça s'apprend. Moi, je donne beaucoup des ateliers aussi dans les écoles, donc j'apprends un peu comment on peut réussir à créer quelque chose de poétique, être dans cet élan de création-là, écrire un texte de slam. Je pense que ça peut s'apprendre. Évidemment, il y en a des plus passionnés ou des plus curieux qui vont peut-être aller plus loin dans le processus d'écriture, mais je pense que oui, c'est possible. En tout cas, tout le monde a quelque chose à dire. Ça, je le pense sincèrement. Donc, si tu as envie de t'exprimer par rapport à un texte, un sujet, un thème qui te touche, ben, je pense que le médium du slam, c'est très bien pour ça.
Mais justement, je voudrais te poser des questions à propos de ça, parce que j'ai vu que tu donnes des leçons d'écriture, même dans des écoles, même sur ta page YouTube. Hein. Et justement, j'ai pensé à cela. Donc, on peut l'apprendre. Hein. Ce n'est pas un don divin, des choses comme ça. Donc, il y a des techniques, il y a Quand tu vas écrire, tu penses à des techniques. J'ai vu que tu donnes des conseils, des petits tuyaux là, des techniques, comment
Oui,
faire des rimes avec des terminaisons telles et tout, hein.
tout à fait. Après, je pense qu'on peut avoir des conseils pour tout art ou tout domaine. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des techniques, en tout cas, lorsque j'ai perfectionné mes textes, les slams. Puis j'avais envie de les partager parce que je trouve que c'est des belles techniques à connaître. Et on pense que parfois, l'écriture, c'est... Ben, en fait, c'est difficile, j'allais dire, on pense que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, mais si on a quelques techniques, quelques outils pour nous aider, ben, je trouve que c'est là que ça permet aux gens d'aller plus loin dans l'écriture. Donc oui, ça s'apprend, il y a des techniques qui peuvent s'apprendre, mais c'est sûr que ça demande de la pratique aussi. Personne qui souhaite écrire, mais évidemment, il doit pratiquer, comprendre comme il faut les techniques. Donc c'est pour ça que je dis que les plus curieux vont beaucoup plus loin aussi. Que ce soit dans le slam, mais aussi, je pense que pour n'importe quel domaine, l'athlète qui est toujours plus curieux d'aller plus loin, qui pratique davantage, va vraiment s'améliorer plus rapidement et aller plus loin aussi. C'est comme ça que je le perçois. Mais moi, oui, j'aime beaucoup offrir mes techniques, mes savoir-faire, donner des petits conseils pour aider les jeunes comme les adultes à se lancer dans l'écriture d'un slam. Je pense que ça vaut la peine parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Et puis pourquoi pas l'écrire et le partager sous forme d'un slam. Donc voilà, tous les outils sont là, toutes les vidéos que je propose sont. Si vous êtes curieux de découvrir ça.
Oui, super. Mais comment s'est passé ton processus à toi d'apprentissage des slammers? Tu étais un petit dessinateur, du coup, tu t'es lancé à écouter, après à écrire. Comment ça s'est passé ce processus? Comment t'es
Oui, mais
arrivé à là où tu es aujourd'hui?
c'est quand même une bonne question parce que effectivement, moi, je n'écrivais pas du tout, donc c'est sûr que c'est beaucoup passé par l'écoute, beaucoup d'écoute, comme j'ai dit. Bon, déjà le rap français à la base, puis on écoutait beaucoup, et déjà je comprenais leur manière de jouer avec les mots. Donc, avec beaucoup d'écoute, j'ai compris que ben, les rappeurs ou les rappeuses décortiquer les mots pour faire des jeux de mots. Je comprenais un peu comment ils procédaient. Puis dans le slam, j'ai remarqué ça aussi, cette façon de jouer avec les mots. Donc, j'ai comme un peu par moi-même, de manière autodidacte, développé des techniques pour savoir, OK, comment ils fonctionnent, comment ça marche. Donc, j'ai pris le temps de décortiquer un peu comment ils procédaient, si tu veux. Puis par la suite, j'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de voir, possible que je le fasse aussi. Donc, avec le temps, j'ai compris des méthodes, puis j'ai essayé de les vulgariser, si tu veux, parce que je voulais les rendre simples pour que lorsque je les explique, ça soit simple à comprendre aussi. Donc, faut trouver une manière de les vulgariser pour que ça soit plus simple pour la personne qui souhaite en apprendre un peu plus par rapport à ces techniques-là. Donc, mais c'est vraiment par moi-même, je pense, à force d'écouter, à force de comprendre, à force d'analyser aussi tout ce qui se faisait dans le milieu du slam et du rap, plus au niveau de l'écriture, c'est là que j'ai développé des techniques et j'ai décidé de les partager.
Ouais, voilà. Et bon, ces côtés de celui qui regarde, des analystes, je pense que ça a beaucoup aussi dans les dessinateurs, hein, parce que je pense que pour faire un dessin, il faut vraiment analyser les choses avant de le
C'est
faire.
vrai. C'est un bon lien que tu fais. Peut-être que ça vient de là, effectivement. Je suis quelqu'un de très visuel qui va beaucoup regarder ou écouter. Donc, peut-être que ça vient de là, le côté analyse d'une œuvre, en tout cas. J'analyse beaucoup les œuvres.
Oui, voilà. Et les mouvements, et même pour partager des choses, avoir des choses à dire, il faut qu'on voit et qu'on réfléchisse après. Hein. Et après, on dit. Hein. C'est tout un processus, je pense.
Oui aussi, oui, c'est un processus, ça fait partie du processus, mais il faut être inspiré. Donc moi, je suis facilement inspiré par les œuvres que j'entends, que je vois. Ça peut être une œuvre visuelle, C'est ça, je pense que ça passe par la théorie. C'est-à-dire que je suis curieux de savoir comment il a procédé, la peinture, ou comment il a procédé pour écrire ce texte-là. Donc, moi, ça m'a toujours, comment dire, ça m'a toujours inspiré, j'ai toujours voulu aller plus loin dans le processus, en fait. Moi, je suis toujours curieux de connaître le processus d'un artiste. Puis dans le slam aussi, donc je pense que de cette façon, ouais. Je pense que ça vient de là, peut-être le dessin à la base. J'écoutais beaucoup, ben, je regardais beaucoup de dessins.
Voilà.
Je me suis mis à analyser, ouais.
Et tu sais si ce mot-là, islam, parce qu'ici au Brésil, on confond souvent avec du islamisme. Je sais pas si ça se passe chez les francophones, mais chez nous, les lusophones, souvent, quand je dis, ah, tu connais l'islam, quoi, l'islamisme? Donc,
Ouais.
ça vient de là,
Ben,
je
ça peut
crois.
arriver. Ça peut arriver. Il y a un autre mot qu'ils confondent parfois, c'est la slime. Je sais pas si slime, c'est l'espèce de truc, là. Donc, souvent, j'entends ça, là. Puis là, non, pas la slime, le slam. Donc, ça aussi, ça arrive souvent. Alors, on explique c'est quoi, puis après.
Et tu sais d'où vient le terme islam?
Alors là, il y a deux définitions. Donc, je ne sais pas laquelle est juste, mais le mot slam provient du mot anglais. Slam, on l'utilise pour signifier quelque chose qui claque, quelque chose de très fort. Donc, des fois, on peut voir ça dans les bandes dessinées. Par exemple, on voit un dessin, il y a une porte qui claque, ça veut dire slam. Il y a des scènes de combat, et puis il se passe pour slam. Donc,
Oui, je vois,
ça
oui.
fait référence à l'onomatopée, le bruit que ça fait. Et lorsqu'on fait une performance de slam, il faut que ça claque, il faut que ça soit percutant, captivant. Donc, il y a cette définition-là. Je sais qu'il y en a une autre qui signifie que slam veut dire concours. Donc, slam poetry, slam, ben, concours de poésie. Donc, parce qu'en anglais aussi, on dit parfois concours de tennis, tennis slam. Donc, c'est utilisé pour signifier, ben, c'est la définition du mot concours. Donc, je ne sais pas c'est laquelle définition, mais les deux, je les trouve très bien.
Ouais, ou les deux ensemble, c'est un concours que
Ou
où
peut-être
ça
les deux
claque.
ensemble aussi. Oui, voilà. Oh, ça claque.
Bon, mais j'ai vu que ton vrai nom, c'est Marc-Olivier Jean.
Oui.
Mais d'où vient Elémo, alors?
C'est un nom d'artiste, donc je l'ai choisi. Donc, il y a quand même une longue histoire à ça. C'est qu'au départ, j'avais un autre nom d'artiste. Okay? Donc, avant, je m'appelais M-O. Okay? Donc, M-M-O. M-M-O. Et ça voulait dire celui qui aime les mots. Okay? Donc, M-M-O. J'aimais beaucoup ce nom parce que le M et le O, c'est les initiales de mon prénom, Marc-Olivier. M-O. Par contre, c'était plus dans la façon dont je l'écrivais. Ça fonctionnait pas très bien. Donc, j'écrivais le nom M-M-O. Mais les gens, ils disaient M-M-O, M-O. C'était pas clair, là, pour le
Oui.
public. Donc, j'ai décidé de changer ça et je me suis dit, bon, je vais faire ça simple. Comment faire ça simple, mais tout en gardant le M et le O. Donc, évidemment, lorsqu'on parle du M et du O, ben, c'est sûr que je fais un lien avec les mots. Donc, lorsqu'on entend et les mots aussi, on entend et les mots, comme si j'interpelle les mots, ça peut être et les mots ou et les mots. Donc, c'est un jeu de mots par rapport à ça. Donc, je voulais garder ça, puis c'est pour ça que j'ai trouvé finalement quelque chose de simple, qui se dit bien, qui est pas compliqué. Et les mots, là, c'est sûr que les gens vont pas se tromper. Donc là, c'est parfait. Et les mots. On garde ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Elémo. Mais malgré tout, il y en a qui se trompaient et qui m'appelaient Emilio. Mais bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce que
Ouais,
Mais
terrible
déjà,
alors.
c'est beaucoup mieux. Les gens se trompent moins, là. Donc, déjà, je suis content.
Oui, non, c'est super hein, les mots la sonorité, c'est bon hein.
Oui.
Ouais, en plus ça
Oui,
marche
ça
bien.
sonne bien. Oui.
Et bon, Lemo, quand est-ce que, bon, tu as parlé de tous ces processus et petites techniques, cette idée de l'apprentissage du regard et à force d'écouter, répéter et tout. Mais je pense qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte que tu étais devenu vraiment islamien. Parce qu'une chose, c'est écrire des poèmes et présenter, c'est présenter un concours. Autre chose, c'est dire bonjour, je m'appelle Lemo, je suis islamien. Oui, c'est
C'est
présenter
vrai.
en tant qu'islamien, c'est présenter en tant que quelque chose, c'est déjà un autre pas. Hein.
Tout à fait.
Et à quel moment tu t'es accepté ça, tu t'es accepté comme ça, hein, comme un islamien? Et tu as commencé à te présenter comme ça?
Je pense pas que je connais le moment exact. Par contre, je me suis toujours considéré comme un artiste. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je sais que pendant longtemps, j'ai dit, je suis un artiste puisque je suis un slameur. Parce qu'avec le dessin, avec le fait de d'être entouré de ma famille, pour moi, j'étais toujours artiste. Oui, c'est sûr que le slam, se considérer comme slameur, c'est, il faut atteindre un certain niveau, là, pour se dire nous-mêmes, oui, je suis slameur, bonjour. Je sais pas à quel moment. Mais c'est sûr que lorsque j'ai commencé à donner des ateliers dans les écoles, ben déjà forcément, les élèves me considèrent comme un slameur professionnel parce que je vais devant la classe, je donne des conseils. Et ça a été en 2015 à peu près, là, j'ai commencé à donner des ateliers. Ça fait quand même longtemps que je fais ça. Donc, je te dirais que oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me considérais comme slameur, mais ça a pris quand même du temps avant de me considérer comme poète, plus que cela. Puis encore aujourd'hui, on dirait que j'ai un peu de difficulté à dire le mot poète, que je suis un poète. C'est un peu spécial. Slameur, oui, ça va. Mais le poète, on dirait qu'il y a quelque chose de plus. Le poète, c'est celui qui sort des recueils de poésie. Moi, j'utilise la poésie pour m'exprimer, mais est-ce que je suis poète? Bon. Certains diraient que oui, moi j'ai parfois de la difficulté à le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'écris des textes poétiques, oui, et j'aime beaucoup les partager sur scène. Pour moi, c'est plus comme ça que je me définis. Lorsque j'ai commencé à donner des ateliers, c'est là que je me suis considéré comme slameur, parce que, évidemment, la personne qui donne des conseils, déjà, se considère comme un peu plus professionnel, peut-être.
Ah, ouais.
J'imagine.
mais c'est drôle ce que tu as dit à propos d'être poète, que c'est plus lourd, ça pèse un peu plus. Mais peut-être ça part d'une tradition, non? Une tradition du canon littéraire qui est poète. On apprend depuis petit que ça, c'est une chose très sérieuse, etc. Je sais pas. Hein.
Je sais pas, je sais pas.
Ou même, je sais pas.
Ouais, mais même le côté écrivain aussi, j'ai pas tendance à dire que je suis un écrivain, alors que j'écris beaucoup de textes pour mes slams, donc. C'est ça, on dirait qu'il y a des statuts, là, des métiers que j'ose pas utiliser. Je préfère mieux dire slameur, artiste, ça me convient. Poète, éventuellement. Écrivain aussi, éventuellement. Mais au final, je pense que je le suis. C'est juste moi qui veut peut-être pas l'accepter ou je sais pas. Mais en tout cas,
Oui, voilà,
je
ouais,
suis l'artiste, ça c'est sûr.
c'est bon, hein? Artiste, c'est la mer, c'est déjà super.
Ouais.
Ah, très bien. Et bon, et une question que toujours je pose aussi, bon, puisque tu es noir et tu habites au Québec et je ne connais pas du tout l'histoire du Québec, en fait, et ça, c'est une question dont on parle beaucoup, en fait, au Brésil, c'est la question raciale. Comment tu te vois au milieu de cette discussion? Est-ce qu'au Québec, ça se parle? C'est une chose que toi, tu participes de ce type de discussion aussi? Parce que c'est pas parce que tu es noir que tu es obligé de parler des racismes et tout, mais j'aimerais savoir
Oui,
si
c'est sûr.
tu t'intéresses à cela.
Ben c'est sûr que ça me touche, en tout cas, ça m'intéresse. C'est sûr que ça me touche quand il y a parlais du racisme, par exemple, ou quand je vois des situations malheureuses par rapport à ça, donc c'est sûr que ça vient me chercher. J'écris quelques textes par rapport à ça aussi, surtout l'événement en 2020, là, George Floyd, donc ça c'est venu chambouler la plupart des personnes noires. Donc oui, ça me touche beaucoup. Au Québec, il y a du racisme. On parle beaucoup du racisme systémique parce que le gouvernement explique qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, alors qu'on sait bien que c'est présent, mais le gouvernement le nie. Donc ça, c'est sûr que ça nous touche énormément. On peut pas nier quelque chose alors que c'est clairement là. Donc je sais qu'il y en a il y a beaucoup de gens qui militent contre ça, qui font des efforts pour créer donc c'est sûr que moi ça m'interpelle beaucoup. Oui, c'est très présent au Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'efforts là-dessus. Puis ouais, je les félicite parce que ça existe depuis longtemps, hein, le racisme. Puis faut pas arrêter de faire des efforts pour qu'il y en ait moins, le plus possible. Ça passe par les paroles, ça passe par les mots aussi. Et puis voilà, donc c'est un peu mon point de vue par rapport à ça, mais oui, c'est présent. Faut avancer encore. Faut s'exprimer par rapport à ça pour faire avancer les choses.
Et il y a eu, tu sais, il y a eu de la diaspora africaine aussi au Brésil à l'époque de l'esclavage et tout, comme ça s'est passé aux États-Unis, au Brésil, non,
Au
pardon, au
Brésil ou au
Québec,
Québec?
oui,
Ok,
au
on a fait
Brésil,
ça au Québec.
oui, je me suis trompé, pardon.
Africaine, je sais pas. Après, haïtienne, parce que mes parents viennent d'Haïti. Donc, oui, il y a une diaspora haïtienne qui se présente. Mes parents sont de la diaspora aussi. Donc, ça, c'est sûr, il y a une grande communauté là, haïtienne, à Montréal en particulier, qui font partie de la diaspora. Donc, oui, c'est très...
Oui, super. Et voilà, l'histoire de Haïti, c'est vraiment incroyable déjà, malgré les résultats après hein, que les États-Unis et la France ont imposés. Mais déjà, c'est une histoire des luttes qui nous inspire ici au Brésil, en fait, quand on voit les révolutions d'Haïti, la révolte et tout. Et c'est ça, c'est cool. Je ne savais pas y a eu cette diaspora haïtienne.
Oui, il y a
Au
beaucoup à
Québec.
moi. Au Québec, à Montréal, mais aussi aux États-Unis, quelques Haïtiens se sont, entre autres à New York, Boston, Miami.
Bon, c'est cool, parfait. C'était juste une curiosité à moi-même, pardon.
Ben oui, avec plaisir.
J'ai quitté un peu le thème de l'islam.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas fait, un thème que tu trouves important de toucher et tout? Mais je peux pas poser la question peut-être.
Je pourrais dire plein de choses, hein. Mais non, on a quand même fait le tour par rapport au slam. C'est ça, moi. Peut-être que je vais insister sur le fait que c'est tellement important de s'exprimer par rapport à ce qui nous touche. Je trouve que le slam ou l'écriture même, du moins, je trouve que c'est un bon moyen d'extérioriser nos émotions. Donc, moi, c'est ça que je trouve bien lorsque on se met à écrire. C'est que très souvent, des fois, on va pas bien, ben ça fait du bien d'écrire un peu. Des fois qu'on voit très bien aussi, ça fait du bien d'écrire un peu. Des fois, on peut écrire des choses très positives, des fois très négatives, mais dans tous les cas, je trouve que c'est important de s'exprimer, d'écrire, de mettre nos émotions sur papier. Parce que ça nous permet de nous lire, juste le fait de nous relire aussi, je trouve que c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant par rapport à comment on se sentait durant cette période ou durant une autre période, le fait de réécouter nos textes, de voir comment on se sentait, qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi par rapport à la société. C'est sûr qu'on a toujours envie, on a toujours une opinion sur quelque chose. Puis moi, je trouve ça bien d'avoir le slam pour ça ou l'écriture, d'avoir le crayon et se mettre à écrire. Donc, si je peux vous inciter à écrire, ben, faites-le. Si vous êtes des personnes qui écrivaient un petit peu une fois de temps en temps, ben, n'hésitez pas à écrire plus. Et lisez aussi. La lecture, ça permet de facilement inspirer, d'avoir plus de mots, d'avoir un plus grand vocabulaire.
Ah,
Un petit
c'est cool,
conseil, ouais.
hein?
Oui.
Une curiosité, est-ce que tu as un islam, un poème que tu as écrit et qui est ton chouchou, peut-être? Un poème.
Mon chouchou.
Ouais.
Ben c'est sûr qu'il y a un texte que j'aime beaucoup partager qui parle du Québec et de mes cultures. Donc ça, c'est un texte que je partage très souvent lors de mes ateliers. Je le sens très bien. Je l'avais partagé durant les concours. Puis c'est un texte qui fonctionnait très bien. Donc celui-là, évidemment, c'est mon petit chouchou là. Donc je l'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres que j'aime aussi. J'ai un texte qui parle de l'artiste en général, et moi-même j'en suis un. Et je le trouve beau. Moi, je trouve qu'il m'inspire personnellement parce que moi, je suis quelqu'un de déterminé, qui est très persévérant. Puis je parle un peu de ça dans mon texte, puis je trouve que l'artiste est très bien décrit. Moi, je le connais bien, l'artiste, j'en suis un, mais je trouve que la manière dont je l'écris, je trouve que c'est fort, c'est bien, puis je suis quand même assez fier de ce texte-là. Même si c'est pas un texte que je partage souvent, mais je le trouve beau. Moi, personnellement, c'est peut-être mon préféré. C'est peut-être pas mon chouchou, mais en tout cas, c'est un de mes préférés. Donc,
Ouais.
voilà.
Et tu pourrais nous donner un petit
Un petit extrait, ouais.
extrait, un petit juste pour...
Oui, bien sûr. Hé, l'artiste. Tôt ou tard, l'envie de créer te tentera. L'imagination t'enterrera. Tant de projets en tête, tu t'entêteras à tenter de réussir, mais hélas, sans garantie. Car ici, c'est soit tu perds ou soit tu persistes. Toile, canevas, la scène ou la page blanche. À toi de combler ce vide d'une âme qui enchante. Et cela seul, en te lançant, sans te lasser, en achetant l'art, sans attendre. Allez, l'artiste, crée l'artifice. Ornétise ta plus belle œuvre que ta passion s'abreuve. Étends un torrent de tes nombreux talents et fonce, tel un taureau au regard vaillant. Même si tu as beaucoup de volonté, sache que les passages devant toi seront sinueux, fort probablement. Je connais bien le milieu, devant ces milliers d'artistes qui ont tous faim, la seule chose que tu auras pour te nourrir sont des rêves, saupoudrés d'encouragement.
Wow, ça nous inspire vraiment.
Oui.
Bravo, merci. Ah, c'est cool, hein? Bon, et juste pour finir, normalement, je pose une toute dernière question pour donner des références à nos écouteurs aussi. Qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français avec des indications de lecture, séries, films, musique, bon. Ce que tu veux.
Qu'est-ce que je peux proposer comme série, film ou...
Une indication de quelque chose pour nous, mais moi et les auditeurs.
Ouais, mais c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui avec une enseignante. Très souvent, je trouve que on connaît pas les dessous de l'artiste, c'est-à-dire comment l'artiste travaille ou combien d'heures il a passé pour arriver à un résultat. Très souvent, on écoute un album, par exemple, on voit que le résultat, c'est pas combien de temps il a passé à travailler des heures et des heures. Puis très souvent, puisqu'on entend beaucoup, on n'a que le résultat, puisqu'on entend souvent la chanson terminée ou l'album terminé ou des spectacles montés, on n'a pas conscience du temps que cela prend pour que ça soit ce produit-là qui est terminé, qui semble parfait aussi. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens écrivent pour que ça soit presque parfait du premier coup. Alors que il y a un long processus derrière un texte. Ce qu'on entend en général, c'est un travail de plusieurs heures. Mais des fois, lorsque le jeune se met à écrire, par exemple, il essaie d'avoir la phrase parfaite dès le début, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer des documentaires sur des artistes. C'est-à-dire que ben, y a beaucoup de documentaires là, qui sont sur les artistes, mais où est-ce que l'on voit leur processus? Donc, il y a la trilogie de Kanye West, là, par exemple, qui est sortie sur Netflix, que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que on connaît évidemment le grand Kanye West, le rappeur qui a sorti des hits et de la musique vraiment qui attire beaucoup de monde, mais c'est quoi le travail derrière? Quand est-ce qu'il a commencé? C'est parti d'où tout ça? Donc, je trouve que le fait d'avoir des images, ça permet de mettre ou de concrétiser un peu tout le travail qu'il a fait là pour arriver à ce niveau de en tant que talent, en tant qu'artiste aussi. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Donc, la trilogie de Kanye West, j'ai beaucoup aimé. Des artistes aussi. Je sais qu'il y a Angèle, c'est une chanteuse belge qui a sorti un documentaire. J'avais bien aimé ça. Puis on voyait un peu tout le processus, les difficultés aussi rencontrées. Ça, souvent, on ne sait pas, on connaît pas les difficultés de l'artiste lorsqu'il s'est mis à écrire, lorsqu'il a commencé, lorsqu'il est monté sur scène. Est-ce que ça a été simple? Est-ce qu'ils ont le public a tout de suite aimé? Non. On a fait beaucoup d'erreurs. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi durant mon parcours. C'est normal, ça fait partie du processus, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de voir les dessous d'un artiste, que ce soit durant le processus d'écriture, ses échecs, ses réussites. Et de cette façon, on voit que c'est pas pour rien qu'il est rendu là.
Voilà, parfait. Oui, c'est une très bonne idée d'aller les regarder. Parce que si on va directement le chef d'œuvre d'un artiste, on imagine qu'il est né comme ça. Hein? Oui, toujours.
Ouais, qu'il est né comme ça et puis il a fait ça comme ça là, en 2 minutes et puis voilà.
Et c'est vraiment drôle parfois sur Spotify. C'est normal qu'on écoute souvent les chefs d'œuvre, même le meilleur album d'un groupe et tout. Et après, quand on remonte dans le temps, on va voir les premiers albums, on dit, ah, mais quoi, c'était comme ça avant? Et
Oui, c'est
après,
ça, il y a eu ouais, tout un processus là aussi. Ouais.
voilà, bon. Mais c'est ça. Merci beaucoup, vraiment, Élément. C'était très, très, très gentil.
Avec plaisir.
Ça a été un grand plaisir. Et voilà, merci.
Et merci à toi, Adrien. Vraiment un très grand plaisir et c'était très amusant de converser.
Voilà, à tout.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonsoir.
Et oui.
Ciao.
À la prochaine.